Effectivement.
Ouais. Tiens, tiens.
Blah blah mix.
Yeah, my neighbor, your neighbor. Can you really trust? Who can we really trust? In times like this.
C'est blabla mix.
শুভ সকাল সবাইকে, স্বাগতম আমাদের ব্লাবলা মিক্সে। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমি দীপু আপনাদের সাথে
ট্রাডুকশন ব্লাবলা মিক্স। কুকু, রাভিক্স d'être avec vous. Comment allez-vous? Aujourd'hui, ça dépote. Ravi, Rami, le pharaon nous dévoile ses pyramides. Jérôme, artiste sans frontières, il s'appelle Jérôme Lagrange. Artiste sans frontières, c'est le nouveau label qui déploie ses ailes. Et elle, plus tard, c'est la mer, c'est la robe de mariée, c'est le déménagement, c'est Claire Rangade et Étienne Roche. Étienne Roche adosse sa contrebasse contre l'univers de Claire Rangade. Et puis, il y aura Léo. Mais tout de suite.
Oui. Oh. Oh. Bla bla words.
Bonjour Rami.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous commençons, comme tous les dimanches, notre émission Blabla Mix par une leçon de langue. Tu vas donc apprendre à tous les auditeurs qui nous écoutent le mot
pharaon.
Comment dit-on pharaon dans ta langue, Rami?
Pharana.
Donc nous allons répéter, tu peux redire doucement.
Pharana.
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 Momi.
Momia.
Momia. Momia. Pyramide.
Ahram.
Ahram. Ahram.
Tu peux redire?
Ahram.
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 Vele.
Wedi.
Wedi. Vele de roi.
Wedi al-Muluk.
Wedi al-Muluk.
Tourism.
Siaha.
Siaha. Économique.
Économie.
Exod.
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 Non, Exod.
Exod.
Comment, Anne?
Exod.
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 Et donc économique, tu as bien raison, Dipou.
Exodi.
Exodi. Exodi. Et est-ce que tu peux nous chanter Biladi, Biladi, Biladi?
Biladi, 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 laki hobbi wa fouadi.
Bravo Rami. Peut-être expliquer aux auditeurs dans quelles circonstances on chante Biladi, Biladi. Au foot?
Partout en fait.
Partout?
On peut chanter partout, c'est comme les Marseillais ici en France. On peut chanter partout.
C'est donc l'hymne national?
Biladi, ça fait quoi? Ça fait des quoi?
La traduction?
Oui.
Mon pays, mon pays, mon pays, vous avez mon amour et mon cœur.
Ah, oh, tout. Beaucoup de mots.
Et nous, on a de la chance parce qu'on a l'amour, le cœur et la tête de Rami qu'on retrouve dans un instant. Mais tout d'abord, c'est notre hymne national à nous, Hocus Pocus.
Conduite de criminel, tu veux du sensationnel, rase-toi les yeux, je perce tes prunelles.
Les radars ont vu passer un fantôme. Je puis grave le trône dans le rap game. J'ai fait ma place comme fantôme. Ne peut en avoir qu'un, pour rivaliser on a aucun. On parle d'un transfert du rap français au RIC. J'ai rien contre les stages, j'ai freestylé au hip-hop show, nigga. Ils reconnaissent que le rap français a trop de flow, nigga. Aucune contradiction, interprète à ma façon. C'est pas 50 que je fuck, mais plutôt c'est contrefaçon. J'ai dû sauver son concert lors de ma détention. 4 petits qui est vendu, parce qu'il reste est en permission. J'ai dit, on nique, fuck la tectonique. Mon seul bling bling, vu un bracelet électronique. Le rap game, on voit des pics. Étudie mes techniques, pratique sans théorie. Le hardcore, le plus authentique. Tupac, Biggie, MySpace, Groupie. Fuck ton clan, tes supporters. Sur le net et le terre-terre. Entre le rap et la street, y'a que la porte du studio qui sépare. Tu veux ma place, hip-hop, street. Ils veulent me clasher et moi les calacher. Je rappe pas comme un petit, c'est qu'elle lâché. La marche arrière est cassée, mes freins ont lâché. Encouragé pour la voie ou principe. Promis, je vais tout arracher. T'es juste un MC et moi un homme d'affaires comme Jay-Z. C'était le rap, le Hubs, Manchester ou Chelsea. Si, tout the motherfucking si, si, si. Ouais, ouais, tout the motherfucking way. Ouais, ouais, ouais. Tous les yeux sur moi comme Pac. Sur moi pété du chat. Quoi, j'te charque, électrique, décharge. Comme d'hab, une frappe va récidiver. Dans le marathon du rap, j'pars de la ligne d'arrivée. Ils s'improvisent tous rappeurs, acteurs, producteurs, managers, gangsters, feeders, prêcheurs, médiateurs. Le rap game a prouvé la faille du détecteur. Ils misent tout sur la carrosserie et nous sur le moteur. Tupac, Biggie, MySpace, Groupie. Fuck ton clan, tes supporters. Sur le net et le terre-terre. Entre le rap et la street, y'a que la porte du studio qui sépare. Tu veux ma place, hip-hop, street. Comme le Kyokra, je circule. Je suis pas amoureux des caméras, j'ai plus de recul. Aucune tasse nous divisera dans ces calculs. Je les trouve ridicules, du haut de mon album, je les vois tous en minuscules. 10 ans d'avance sur les concurrents, je les déplume. Y'a que leur cahier qui est conquérant, je nettoie la nocturne. Vive la génération rapline. Des cris bourrés et ne kick que des punchlines. Ils veulent un feat, je pousse la chaise roulante de leur buzz. Mais les oreilles ne se partagent pas quand il s'agit de huss. Mélangeons pas les odeurs, c'est l'interprète et auteur du génocide. On enregistre au bord de l'homicide. Trop de rumeurs et de commentaires, peu d'action. J'ai lancé la mode, des vidéos sur Dailymotion. Le rap game veut sa part du ghetto. C'est stratégie marketing. La tôle, les bracos, pillage en casting. Des armes en photo, ils revendiquent la 09. Que du bluff avant son succès, il gérait 09. Il perd son sang-froid, exprime sa jalousie. Devant une grombie qui porte du distal, qui font un style. Tupac, Biggie, MySpace, Groupie. Fuck ton clan, tes supporters. Sur le net et le terre-terre. Entre le rap et la street, y'a que la porte du studio qui sépare. Tu veux ma place,
non, mais tu veux cette street. Mais oui, restez là, restez avec nous, mais non. Certes, c'est du rap, c'est de l'urbain, Schumann n'aime pas. Et toi, Jérôme, aimes-tu Hocus Pocus?
J'aime le rap et j'aime Hocus Pocus, effectivement.
Tu connais donc?
Je connais un peu.
Est-ce que tu peux présenter en deux mots à Dan, qui va t'interviewer, qui est Hocus Pocus?
Alors, c'est un rappeur...
Bien dans le micro.
C'est un rappeur français, voilà.
Bonjour, Jérôme. Qui êtes-vous?
Ah, vaste question. Alors c'est bien parce qu'on a la radio, donc on va dire que je suis encore un jeune homme. Non. Et je suis sur la région lyonnaise depuis un bon petit moment maintenant. Moi, je viens des monts du Lyonnais au départ, des coteaux du Lyonnais, donc à une trentaine de kilomètres sur l'ouest de Lyon. Et puis donc j'ai grandi plutôt en milieu rural. Et il se trouve que j'ai fait mes études sur Givors aussi, non loin d'ici. Et puis, à la fin de mes études, j'ai décidé de partir au Sénégal parce que j'avais envie de voir un peu autre chose que ce qui se passait en France. Et là, j'ai été très bien accueilli au Sénégal. étrangement, parce que c'est vrai qu'en France, c'est parfois un peu, ça peut être un peu parfois l'inverse. Mmh. Donc voilà, ça c'est une première étape. Et puis ensuite, quand je suis revenu, j'ai été objecteur de conscience en tant que médiateur culturel dans un théâtre à la Scène nationale d'Annecy, et ça m'a permis de découvrir le milieu artistique. Le milieu artistique, et vraiment là ça a été pour moi un choc, que ce soit la musique, jazz, la danse, le théâtre, et puis après je suis revenu sur la région lyonnaise et je me suis dit bon, et qu'est-ce que tu vas faire de tout ça? Et donc j'ai commencé à m'impliquer dans des associations, à créer une association.
Pouvez-vous parler de collectif des artistes sans frontières?
Oui, alors Artistes sans frontières, c'est un collectif d'artistes qui est en train de se structurer là sur la région lyonnaise, que j'essaye d'accompagner. Il se trouve que moi je suis animateur à mi-temps sur un centre d'accueil pour demandeurs d'asile depuis une dizaine d'années maintenant, et comme je le disais, suite à cette découverte du milieu culturel, je m'occupe aussi maintenant depuis ça fait 15 ans maintenant que je suis sur le guide culturel Auvergne-Rhône-Alpes Utopia, qui est un gros guide qui sort chaque année et qui recense un peu toutes les structures culturelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes maintenant. Voilà. Et donc, ces deux choses-là ont fait qu'aujourd'hui, je suis un peu en mesure d'orienter les artistes qui sont en demande d'asile ou réfugiés pour les aider à se produire, à programmer.
Pourquoi vous aimez la musique des réfugiés?
Alors parce que déjà c'est une musique qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre et qui fait que ça apporte une richesse à ce qu'on connaît déjà. Voilà. Et donc je trouve que le mélange des musiques produit quelque chose de très beau.
Quels sont les thèmes des chansons d'immigration?
Alors ça dépend. Par rapport aux artistes que j'accompagne aujourd'hui, il y en a qui parlent d'amour. Il y en a qui parlent effectivement de leur parcours. Il y en a qui parlent du manque de la famille, du manque des amis. C'est assez diversifié finalement, et on s'aperçoit aussi qu'il y a des thématiques effectivement comme les chansons d'amour qui, quel que soit notre pays d'origine, on parle quand même bien tous des mêmes choses et on a quand même bien tous les mêmes envies et les mêmes préoccupations à ce niveau-là.
Et là, quand tu énumérais les thèmes, Jérôme Dipou acquiesçait. La famille, le manque, l'amour, la séparation, ce sont des thèmes qui...
Émotionnels.
Oui, ça fait dire que les personnes, ils chantent, ça dit la vie, toute la vie, comme une myriade de vie, cette chanson.
Oui, c'est une façon de témoigner, et c'est vrai que c'est un peu des porte-paroles. C'est aussi pour ça, moi, c'est ce qui m'intéresse, de pourquoi j'ai envie de les accompagner, c'est parce que finalement en chanson ils se font aussi les porte-paroles de ce que vivent beaucoup de personnes qui peuvent arriver en France.
Est-ce que vous exploitez le talent étranger?
Exploiter dans le terme capitaliste.
Exploiter, c'est pour ça que je préfère dire j'essaye d'accompagner humblement à mon niveau. Alors, c'est vrai que...
Oui, mais est-ce que vous ne vous servez pas des étrangers pour exister? C'est ça qui veut dire Dan.
Alors, j'espère que ça ne m'arrivera jamais. Mais non, le fait que j'ai une situation déjà à côté, moi, me permet de pas avoir besoin de ça. Mais en fait, le besoin est venu à partir du moment où, en tant qu'animateur en CADA, j'accompagnais ces artistes qui étaient sur le centre d'accueil pour demandeurs d'asile, et je le faisais en tant qu'animateur sur mon temps de travail d'animateur. Mais une fois qu'ils ont leur statut de réfugié et qu'ils se retrouvent, qu'ils sortent du centre, ça devient plus compliqué pour arriver à se faire programmer au niveau administratif pour faire les déclarations. pour essayer d'obtenir son statut d'intermittent.
Donc il y avait un besoin.
Voilà, il y avait un besoin et une demande de leur part. C'est vrai que j'en ai accompagné plusieurs maintenant depuis une dizaine d'années. Et puis là, il se trouve qu'ils sont maintenant 6-7 à vouloir se structurer un peu plus. D'où l'idée du collectif Artistes sans frontières. Et je veux juste te dire que c'est né à l'occasion d'une nuit sans frontières qu'on avait organisée pour venir en aide au collectif RESF, Réseau Éducation sans frontières, pour collecter de l'argent. Et donc il y a eu cette programmation de ces artistes. Et donc il y en a eu une première à la MJC de Villeurbanne fin 2015. Voilà.
Les artistes réfugiés ont-ils facilement le papier?
Ça, c'est une question qui t'importe, Dan, comme toutes les autres d'ailleurs. Mais...
Oui, alors s'ils sont réfugiés, ça veut dire qu'ils ont leur papier, mais c'est vrai que c'est pas simple. C'est pas simple pour les artistes. Il existe un titre de séjour au titre des compétences et talents artistiques. Depuis 10 ans, il y a un artiste, le premier que j'ai accompagné, qui a obtenu ce titre de séjour. Il avait été débouté du droit d'asile, mais avec toutes les actions qu'on avait menées, les concerts sur lesquels il avait été programmé, les ateliers qu'il a mené, la préfecture lui a reconnu une compétence et un talent artistique qu'il pouvait apporter à la société française. Et de ce fait-là, il a pu obtenir...
Rami, ça...
Oui, après, c'est le seul qui a fait cette demande-là aussi. Les autres ont obtenu leur statut de réfugié.
C'était en quelle année, ça?
Ça, c'était en 2000... on est quand, là? 2017, oui, c'est il y a 8 ans.
Ah oui, donc à vérifier quand même si ça existe toujours. Artistes sans frontières, quand est-ce qu'on pourra voir l'un?
Alors, dès cet après-midi, au Domaine des Quartières à Chaponneau, pour les 60 ans du Domaine des Quartières, qui sont les missions africaines à Chaponneau, il y a 3 artistes qui se produisent. Donc Gatcheli, auteur, compositeur, interprète togolais, Mohamed Adamichak, que vous avez accueilli la semaine dernière, qui est auteur, compositeur, interprète soudanais, et puis Sidney Rodriguez, que vous n'avez pas encore accueilli, mais qui, à mon avis...
ça ne va pas tarder.
Voilà. Et qui est un violoniste du Bangladesh, qui est formidable aussi.
C'est magnifique. Merci beaucoup.
Merci, Jérôme.
Merci, Jérôme. Merci, Dan. Et puis, eh bien, nous avons puisé dans la discothèque Dan Pierre-Léo, qui est avec nous. Anne, salut à toi. Est-ce que tu peux nous présenter ce que nous allons écouter?
Oui, je pense que notre invité tout à l'heure, Rami, en parlera mieux que moi, mais c'est Amri Diab, c'est un grand chanteur égyptien très populaire là-bas depuis bien longtemps, je crois, et qui est aussi populaire dans le monde entier. Alors, je ne sais pas quel titre on va écouter. Moi, je l'avais découvert lors d'un voyage en Palestine. Je crois que dans tout le monde arabe, il est assez populaire. On aurait pu choisir Oum Kultsoum, par exemple, aussi, mais Rami nous dira peut-être tout à l'heure, après qu'on l'ait écouté, la place qu'a Amri Diab.
يا حبيبي وانت جنبي احلم واتمنى ايه ما خلاص الحلم جنبي وعيوني دايبه فيه قرب مني كمان قربك هو الامان بناديلك من زمان تعالى ضمني علم قلب الغرام كلمني احلى الكلام عيش معاك
من ايديك ولا شيء يغلى عليك لو بس تضمني
Blabla Mix. Rita, bonjour.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Bonjour.
Je vous présente mon invité, Rami Amin, un guide touristique qui vient d'Égypte. Bonjour Rami.
Bonjour.
Tout d'abord, tu as aimé la musique?
Bien sûr, c'est merveilleux, c'est un des meilleurs chanteurs en Égypte.
Comment s'appelle cette chanson?
Allem Albi.
Allem Albi, ça veut dire quoi?
Apprends mon cœur. Oui. Non, mais c'est un peu compliqué de traduire parce que c'est des expressions égyptiennes.
Cœur apprendre, peut-être.
Ouais, cœur apprendre ou.
Ça veut dire le.
Il faut donner de cours à mon cœur.
Tu viens d'Égypte, Rami. Ça fait combien de temps que tu es en France?
Je suis 2 ans. Ça fait 2 ans.
Oh. Et tu as quel statut en France?
Je suis réfugié en France.
Ah, tu es réfugié. Et donc, tu as déjà tes papiers, tout est bien. Ok. Et qu'est-ce que tu fais en France maintenant? Tu cherches un travail?
Je suis en train de chercher un travail, oui.
N'importe quel travail ou dans ton domaine?
Je préfère dans mon domaine, le tourisme, mais ce n'est pas facile. Hein.
Donc, ce c'est pas facile d'être un réfugié et travailler dans n'importe quel domaine, malgré que tu parles bien français et tu es diplômé et tu as déjà travaillé dans ce domaine dans ton pays.
En fait, déjà, il n'y a pas beaucoup d'offres dans ce domaine en France. Et en plus, malgré le diplôme, malgré la langue, il faut recommencer du zéro. Ça veut dire qu'il faut essayer de faire encore des autres études ici en France et ça prend du temps. Et aussi, il n'y a pas beaucoup d'offres. Bah là, et il faut de la patience en fait. Et c'est pas facile.
T'as essayé de commencer une formation dans ce domaine?
Non, en fait, j'ai commencé des études à l'université pour être un interprète. Mais d'un coup, j'ai eu le statut et si on est étudiant à l'université, on n'a pas le droit de toucher le RSA. Et en ce cas-là, j'étais obligé d'arrêter mes études, sinon je vais mourir de faim. C'est pour cela que j'ai arrêté mes études pour pouvoir commencer un projet professionnel en France.
Donc, quoi te manque pour être un guide touristique en France?
Il faut des diplômes du guide conférencier ici en France. Et en plus, il faut l'offre. Et comme vous savez, il n'y a pas beaucoup d'offres.
Est-ce que tu préfères avoir du travail et être bien payé ou être au chômage et avoir faim?
Non, je préfère être au chômage et avoir faim.
Dis-moi.
Non, mais j'ai essayé, en fait, il faut que je vous dise la vérité, j'ai essayé dans 2 autres domaines. Par exemple, le chargé d'assistance dans une compagnie d'assurance, tout ça, pour répondre au téléphone des clients. Et j'ai passé 2 entretiens, ça fait 2 mois, ici en France, j'ai passé 2 entretiens d'embauche. Un entretien qui était facile et simple, et j'attends une réponse. Deuxième entretien, c'était très compliqué, même si on est diplômé, on parlait très bien français. Si on est dans un entretien d'embauche un peu coincé, avec des questions concernant le système d'assurance en France, on n'a aucune idée. C'est un peu compliqué, même pour les étrangers qui sont diplômés. Si on n'est pas passé par une école primaire ici en France, si on n'est pas passé par un lycée ou des études dès le départ ici en France, c'est un peu compliqué aussi d'avoir le travail qu'on rêve.
Pourtant, tu seras un guide touristique épatant pour tous les groupes de touristes qui viennent du Qatar, qui viennent d'Arabie Saoudite et qui voudraient un guide touristique qui parle arabe et français.
Elle fout l'offre.
Il faut l'offre.
Ouais.
Alors je suggère à la directrice de l'Office du Tourisme de Lyon qui écoute Blabla Mix tous les dimanches, d'embaucher Rami. Une autre question peut-être qui nous emmènerait en Égypte.
T'as fait quelle formation en Égypte?
En fait, j'ai licence de tourisme.
licence de tourisme. Et tu peux nous parler de ton travail?
En fait, mon travail, c'était d'accueillir les vacanciers à l'aéroport, les amener à l'hôtel, essayer d'organiser leur séjour, essayer de les accompagner pendant le séjour. En fait, on a le côté historique d'Égypte, les pyramides, le Sphinx, le musée du Caire. On a au sud d'Égypte Luxor, Assouan, la croisière sur le Nil qui dure à peu près une semaine entre Luxor et Assouan, en passant par plusieurs temples, plusieurs dynasties, jusqu'au temple d'Abou Simbel, c'est le temple de Ramsès II au sud d'Assouan.
Quel est ton endroit préféré à toi?
Le temple du Karnak à Luxor.
Pourquoi?
Parce que en fait on peut dire l'histoire et les ou tout ce qui est qu'est-ce qu'on dit tout le trésor de ce temple, il existe là-bas. Ça veut dire avec le temps, avec l'atmosphère ou avec tous les environnements, il n'est pas abîmé, il n'est pas déchiré. Non, il reste là-bas, il existe là-bas. Mm-hmm. Et il est bien conservé là-bas. C'est pour cela qu'on découvre bien l'histoire dans ce temple.
Mm-hmm. Et tu travailles dans ce domaine depuis quand?
Depuis 7 ans.
Oh, 7 ans. Et quels sont les problèmes, les difficultés qui rencontrent les guides touristiques en Égypte?
En fait, dans tout le domaine du tourisme, une fois on travaille pour le tourisme, c'est un domaine très sensible. N'importe quelle information à la télévision, soit vraie ou c'est pas vrai, ça peut faire peur aux touristes de venir. C'est pour cela, c'est très sensible en fait.
Moi, j'aimerais savoir comment tu trouves, mais vas-y Rami, hein, tu as le droit de dire la vérité, comment tu trouves les touristes français comment se comportent-ils? Sont-ils gentils, prévenants, curieux?
Bon, les touristes français, comme tous les touristes au monde, il y en a les gens qui sont gentils, et il y en a qui demandent un peu plus parce qu'ils ont déjà payé un peu plus. C'est pour cela qu'ils demandent plus, ils ont le droit, mais c'est comme tous les vacanciers. Et il faut savoir qu'il y a une grande différence entre les Français que j'ai rencontrés ici en France et les Français qui vont en vacances.
C'est-à-dire?
Ils sont plus à l'aise là-bas, c'est plus tranquille, ils se reposent, il n'y a pas de stress. C'est pour cela, à mon avis, ils sont...
C'est mieux de rencontrer des Français en Égypte.
Oui.
Qu'à Lyon.
C'est mieux de rencontrer les gens en vacances.
Évidemment.
En général.
Rami, tu es de quelle ville en Égypte?
Du Caire.
Du Caire. Tu peux nous parler un petit peu de la ville?
C'est une grande ville, capitale d'Égypte. Trop de monde, trop de voitures. Mais ça reste aussi côté historique, existe là-bas et on découvre facilement que c'est une ville où il y a d'histoire.
Et justement, au Caire, qu'est-ce qu'on voit circuler dans les rues? Des voitures, mais quoi d'autre?
On voit tout. On voit les voitures, on voit le vélo, on voit le taxi, on voit les camions, on voit le poids lourd.
Des chevaux?
Oui, des chevaux, de temps en temps.
Non, pas plus.
Ouais.
Ah, je croyais. Et toi, Dipou, à Dakar, est-ce qu'il y a beaucoup de vélos?
Non, pas beaucoup de vélos, non. Ça fait des, ça n'existe pas, peut-être.
Ça n'existe pas.
Oui.
Et donc, on circule comment?
Il y a taxi, il y a rickshaw, bus, comme ça, ouais.
Voiture.
Voiture, oui.
Très pollué?
Oui, tout pour dire, oui, très pollué.
Et à Damas, Rita, comment ça se passe, la circulation?
La circulation, en fait, après la guerre, maintenant, il y a beaucoup de monde à Damas qui ont déménagé à Damas parce que c'est plus tranquille que les autres villes. Donc, on trouve beaucoup de voitures, les moyens de transport en commun, des vélos, et ça fait beaucoup de pollution, malheureusement.
Et juste, Rami, il y a des transports en commun autres que les bus? Est-ce qu'il y a un métro au Caire? Je suis désolée de cette question,
Il y a du bus, métro, bus, il y a le minibus, il y a des taxis.
Et est-ce qu'il faut vérifier, lorsqu'on rencontre un guide touristique, qu'il a une carte, quand on est en Égypte? Est-ce qu'il y a des faux guides touristiques? Non, pas spécialement. D'accord,
non.
Très bien. Rami, juste si tu as un message aux auditeurs en France, c'est le moment. Tu cherches quelque chose, un travail, on avait commencé par ça.
guide touristique, bilingue, cherche un poste.
Je cherche un travail, mais j'essaye de me préparer pour ça, en fait. Mais actuellement, oui, je suis à la recherche d'un emploi, oui.
Eh bien, je suis sûre que tu vas y arriver. Il y en a un autre qui a traversé, lui, des chemins, c'était moins loin, l'Espagne, Paco Ibanez, La Tordue, Grand-père.
Mi abuelito me lo decía, mi papá me lo dijeron muchas veces y lo olvidaba muchas más.
Mon grand-père mille fois me l'a dit, mon père me l'a répété aussi. Il me l'entendait tant et si bien rabâché qu'à chaque fois moi j'oubliais.
No te pienses.
Travaille mon enfant.
Que sin dinero vivirás.
La vie sans argent, ça vaut pas le déplacement.
Junte el esfuerzo y el ahorro.
Gagne mes gardes, tes sous, fais ton trou. Et alors tu verras.
Abre tes paso, ya verás.
La vie daignera te donner quelques moments de joie.
Como la vida te depara buenos momentos, te alzará.
Enfonce bien les petits,
los pobres,
les mesquins,
les mezquinos,
tous les cons qui se contentent de ce qu'ils ont.
Que no han sabido descollar.
Mon grand-père mille fois me l'a dit, mon père me l'a répété aussi. Ils me l'ont tenté si bien rabâché qu'à chaque fois moi j'oubliais. Mon grand-père mille fois me l'a dit, mon père me l'a répété aussi. Ils me l'ont tenté si bien rabâché. À chaque fois, moi, j'oubliais. Dans la vie, c'est chacun pour sa peau. Et voilà toute l'histoire. Sortez gros, joue solo. Sinon, tu ne seras qu'un tocard. À tocard. Vas-y fiston, mets le paxon. Toute la terre, le soleil et la mer appartiennent à ceux qui s'assoient sur leurs frères. Mon grand-père mille fois me l'a dit, mon père me l'a répété aussi. Ils me l'ont tenté si bien rabâché qu'à la fin j'ai tout oublié. Mon grand-père mille fois me l'a dit, mon père me l'a répété aussi. Ils me l'ont tenté si bien rabâché. Y a la fin j'ai tout oublié.
Y lo olvidado siempre más.
Dipou, comment vas-tu?
Oui, ça va. Et toi?
Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu.
Oui, ça fait 12 semaines.
Ouais, oui, c'est trop. Est-ce que tu vois souvent des contrebasses?
Contrebasses? Non, pas souvent.
Au Bangladesh, est-ce que tu as déjà vu une contrebasse?
Pas comme ça, mais petit.
Une petite?
Oui.
Blablabla poche.
Elle s'appelle Claire, elle s'appelle Rangade, elle est metteur en scène, elle est comédienne, elle est auteure, elle fait des lectures, des performances, elle a des textes singuliers, extraits du réel et transformés par son cerveau. Bonjour Claire.
Bonjour Véronique.
Quelle idée d'avoir amené un contrebassiste, tu l'as rencontré où ?
En fait, on s'est entre-rencontrés, donc j'ai amené personne, il est venu tout seul. Et on écrivait tous deux, lui de la musique, moi des mots, sur des tables de cuisine. Et en fait, à force de manger ensemble et d'écrire chacun sur une table, on s'est mis sur la même. Et c'est comme ça qu'on a commencé.
Et c'est bien d'écrire sur une table de cuisine ?
Moi, je pense qu'avec quelque chose qui mijote en même temps, on a besoin des odeurs, ça ouvre les papilles et les oreilles aussi.
Est-ce que tu peux nous parler de la genèse qui a provoqué ton écriture ? De tabler sur narcissique, finalement.
Oui, j'écrivais de façon, comment dirais-je, maladive, voilà, graphomane, comme on dit. Voilà, ça venait, j'avais besoin de... Je sais pas, j'ai peut-être trop de choses, trop de mots, il fallait que j'en sorte. Et puis après, ce qui a déclenché, c'est la parole. Parce que j'ai eu la chance d'être orthophoniste à un moment dans ma vie. Et c'est l'aphasie qui a déclenché mon écriture. C'est-à-dire apprendre une autre langue parce que le cerveau a décidé de faire autrement. Et finalement, ça construisait des choses qui me racontaient des histoires. Et voilà, donc ça c'était un premier pas. Puis par ailleurs, une envie de parler différemment sur scène et que les gens soient dans leur parole plus que dans l'écrit. Voilà, donc s'intéresser à la parole, comment elle fonctionne ou comment elle dysfonctionne. Et c'est devenu des mots et c'est devenu du texte à voix haute.
Mmh. Est-ce que ça t'intéresse d'entendre parler un petit peu bengali?
Oui, bien entendu.
Vas-y, dis-nous des choses dans ta langue, dis-nous.
Quelque chose, tout.
N'importe quoi. Tu m'adresses ton message d'amour habituel en bengali, juste pour faire découvrir ta langue à Claire.
Kamonanso.
Voilà, Kamonanso.
Kamonanso, ça veut dire
Katonasso. Non, Kamonanso, ça veut dire comment ça va, c'est ça.
Comment ça va?
Ouais.
Et quelque chose, tout, que tu as dit tout à l'heure, ça veut dire quoi?
Pardon?
Le premier mot que tu as dit tout à l'heure, Kachoustou. Non, mais moi j'entends des trucs.
Kamonanso, c'est ça?
Ah, peut-être. Est-ce que j'avais jamais entendu cette langue? Absolument pas. Et évidemment, je fantasme complètement d'autres choses dans la mienne, comme tout le monde.
C'est très romantique langue, c'est dans le monde, c'est ça?
Ouais,
c'est très romantique, on peut en parler un peu tout à l'heure.
juste une phrase, Shuman, pour que quand même Claire, spécialiste des langues, entendent.
Oh non,
est-ce que tu peux décrire?
Absolument pas.
Non, d'accord.
Thomas, apner voice on exchunder.
Tiens, prends ça dans ton oreille. Je vous propose tout de suite de vous plonger dans l'univers de Claire Rangade et Étienne Roche, que vous pouvez d'ailleurs aller voir tout à l'heure à 17h à Saint-Étienne.
Bah, oui, alors, vas-y. Ah bah le texte, en fait, là c'est un texte que j'ai écrit en vivant pendant 3 ans dans un quartier où les gens devaient déménager puisqu'il y avait des modifications urbaines et il fallait quitter l'immeuble avant qu'il soit détruit.
Bah, dit Pou, le déménagement, ça le connaît. 10 déménagements, 10 ou 16?
Beaucoup.
Dis ta maison à la va-vite, les fenêtres juste avec le grillage. J'ai l'impression d'être dans un poulailler, passe-cour, chenil, je suis pas bien là. Arrête de me chronométrer, je maîtrise pas la langue, chausse, trappe, ornière, embuscade. Je veux pas vivre n'importe où, je suis entouré de bois sous tôle. Je veux pas vivre volatile, déplumée, immergente. Si t'as une perceuse pour un bout de lampe, moi j'ai des poussiérés, stable, instable. Ça se fait comme ça, je pars. Si tu veux, tu viens, à combien on est? Faut vider l'appartement, vider le garage entièrement et tout l'appartement, excepté un frigo, un plumard dans le garage, puis réaménagement. Ce qui est dans le garage remonte ici, tout un container, on emporte tout. Un bout de miroir, 3 porte-manteaux, welcome. Dégueulasse, faut refaire, déménager, rapatrier, donner. Il est trop grand ce canapé, tu peux pas le mettre ailleurs? Ma chambre, elle va pas dans l'entrée. Ces meubles à tiroirs y suivent. Bout de ficelle ne servent à rien. L'appart est en état de marche. Je ne suis pas habitant. Je suis dehors tout le temps, les uns à côté, en dessous, au-dessus des autres. Cet emboîtement, je m'y vois, je sais où. Je suis dans la ville, ouais. Le vent, les cartons, les rouleaux. Je sais pas faire, j'ai pas envie. J'ai des cartons à la cave, plein de choses que je veux pas voir chez moi. J'ai plus de place, je peux pas résister. Je peux pas me débarrasser de toi. Du fait de mon déménagement, mon congélateur est dégivré, c'est un détail. Mais si j'avais pas bougé, il y a un tiroir que je pourrais toujours pas bouger pour cause de glace. Rien qu'hier, je voulais tout changer de place, l'armoire est pleine, je peux plus la bouger. Alors, pour dormir, on dort chacun notre tour parce qu'il n'y a pas la place de s'allonger à trois. Les cartons ne font pas chambre à part.
C'est pas faux, c'est pas faux. Dipou, les cartons, les déménagements, ce texte, ça t'a rappelé des souvenirs ?
Oui.
Oui, tu as déménagé, donc pour expliquer aux auditeurs qui découvrent Blabla Mix, tu as dû changer de famille tous les mois.
Tous les mois, chaque mois, oui.
Chaque mois. Et donc, toi, tu n'as pas de carton, toutes tes affaires, oui. Elles sont dans quoi ?
Pas carton, bagages.
Un sac.
Deux sacs.
Ouais. Deux sacs. Tu t'embourgeoises, attention. Claire Rangade, je voulais savoir comment tu travaillais, parce que je sais que parfois tu vas sur le terrain, tu travailles un peu comme un journaliste, tu demandes, tu poses des questions aux gens ou tu collectes des paroles. Là, pour ce spectacle avec Étienne Roche, c'est un travail différent.
C'est différent dans le sens où j'ai pas vécu, j'ai vécu dans le quartier, mais j'ai pas vécu chez l'habitant, alors que pendant 10 ans, j'ai vraiment vécu chez les gens, plus que chez moi, en fait, sur différents projets. Donc voilà, on habitait ensemble. Parce que l'idée, c'est pas qu'il y ait quelqu'un qui observe, c'est comme un routard, en fait. C'est plus avec un argument qui me vient beaucoup de Nicolas Bouvier, que j'aime beaucoup, et qui dit il est pas besoin d'aller très loin pour voyager beaucoup, il suffit d'ouvrir les yeux, les oreilles. À condition de n'avoir jamais l'âme triste. Et voilà. Et on peut voyager à deux pas de chez soi, on peut voyager chez ses voisins d'en face. Et c'est déjà une autre langue. Bon, puis alors après, maintenant, vu que de toute façon, les langues sont partout, quoi qu'il arrive. Mais c'était dans son propre quartier, dans sa propre maison, dans la montagne qui est derrière, il y a des tas de gens qui ont une façon de vivre différente. Et on cherche finalement des points communs. Et on en a trouvé plein. Parce que d'un métier à l'autre, d'une vie à l'autre, on ne se rencontre pas. D'un paysage à l'autre, est-ce qu'on est façonné par le paysage qui nous entoure ? Enfin, toutes ces questions-là, je n'ai pas fini d'y répondre. Mm-hmm. Mais on rencontre plein de gens, ça c'est pas mal. Voilà.
Et est-ce que notre thématique de demandeur d'asile, réfugié, est un territoire qui t'intéresse ?
Bah, ça m'intéresse de plus en plus, puisque maintenant, si tu veux, ce qui se présente, c'est non pas que j'aille dormir chez les autres, mais qu'on vienne dormir chez moi. Donc, c'est des choses qui commencent autour de moi. Moi, je suis pas encore fixe, donc c'est pas encore un espace où je peux le faire, mais ça m'intéresse énormément. Je pense que toutes les bonnes expériences qu'on voit tous les jours, c'est comment on se complète les uns et les autres dans nos cultures, en fait. Comment ça ? C'est un gain d'être pluriel. Mmh. On est déjà plusieurs, enfin, moi, je suis déjà plusieurs, moi, toute seule, mais ça, c'est la folie, c'est autre chose, mais le fait d'être plein. Dans un endroit, c'est que enrichissant, parce qu'on peut pas savoir tout faire.
Accueillir renforce les sociétés.
Ah mais certainement.
Extrait numéro 2. Étienne Roche.
Voyez ce qu'ils en font de l'histoire. On enjambe des meubles qui ont l'air d'avoir été jetés par la fenêtre, des monceaux, l'histoire, c'est des tas. C'est peut-être déjà nous, c'est pas forcément formidable, c'est pas... sérieusement spectaculaire, mais l'histoire, c'est nous. C'est nous qui avons commencé avec notre vie sans histoire. D'abord, en Amérique, on n'y est jamais allé. Et ce qui manque ici, c'est la mer. Vous voyez, l'horizon. J'achèterai une valise à roulettes. On en a une valise à roulettes. Tu reviens avec moi ? Avec toi, oui. Si tu la vois, tu la signales. Pour ce qui est de l'avoir passée. Tu dis, regarde la mer. Regarde la mer, elle est où ? Elle est passée. Vous savez tous que cette terre est déjà découverte à tous les vents. La mer n'en finit plus, la mer ne s'arrête pas de faire la mer, d'étendre son bleu partout. Il n'y en a que pour elle autour. La mer est un trait bleu, colorié sans laisser de blanc. Il y a un petit voilier qui se la joue au centre pour que ça fasse mer sur l'image. Il y va de son triangle blanc. C'est pas la mer, c'est la Camargue, dit une dame. Camargue, dit l'homme en articulant. La mer, que ce soit en France ou en Amérique, dit la dame. Au Kenya, j'ai aimé. T'as aimé quoi? La mer? La mer. Ah oui, oui, faut pas toujours venir, après faut pas rester, il dit à la mer. La mer, c'est démarrer. Démarrer, dit l'homme voilé dans le voilier, et les automobilistes abandonnent leur auto pour se jeter dedans. Les passants abandonnent leurs sacs et leurs porte-monnaie pour se jeter dedans, et le grand bleu se referme sur les voies, un sifflement imperceptible d'un vague vent de sable qui ensevelit les objets petit à petit, les effets personnels, les valises à roulettes.
Claire Rangade, Étienne Roche, extrait que vous pouvez retrouver tout à l'heure à Saint-Étienne à 17h, bande de Vénards, mais aussi le 27 mai à Vabre à 20h15, le 3 juin à Saint-Laurent-sous-Coiron, pas loin de Lussa. Le 17 juin, vous êtes à Lyon où?
Le 17 juin, on est à Lyon à la Croix-Rousse, il faut nous appeler parce qu'il n'y a plus beaucoup de place, et le 29 juin, on est à Lyon, au Bon Sauvage, à Lyon aussi. Ouais, j'ai dit trois fois Lyon, mais bon.
Et le 17 juillet, c'est au Café Frappé à Grenoble, côté Roseraie.
Au Cabaret Frappé.
Au Cabaret Frappé.
À la Roseraie.
Au Jardin de Ville.
Voilà.
Précisément. S'il fallait décrire en une phrase d'improvisation, Étienne Roche, parce qu'il n'a pas accès au micro, j'avais prévu des questions, et puis en plus on n'a pas le temps, mais j'aimerais quand même qu'on sache qui est cet homme, son secret. Quel est son secret,
Étienne Roche? L'intuition. Mais c'est fait comme ça, spontanément. En fait, bon, bah voilà, grosso modo, qu'est-ce qui se passe? Tu écris de la musique comme tu respires. Voilà, ça se fait tout de suite, c'est très pratique, c'est très concret, c'est hop, voilà, t'as une idée, hop, t'as un crayon, tout de suite, c'est tout de suite fait, c'est tout de suite là, c'est très concret, et c'est immédiat, et c'est toujours bien.
Et tous les deux, vous n'avez jamais eu de panne d'inspiration?
On n'a pas eu le temps.
Ça viendra. Claire Rangade, la théâtralité, ça te manque pas? Non pas la théâtralité, mais tu avais une compagnie dans les années 96 qui s'appelait le Théâtre Cray. Donc j'imagine que tu montais des pièces régulièrement, du Mignana et je ne sais quoi. Et finalement, maintenant, tu montes plus rien à part toi.
Alors, je ne fais plus de mise en scène, mais la compagnie, elle a duré quand même jusqu'en 2014.
Ce voilà, qui n'est pas mal.
Voilà, il y a quand même une vingtaine de mises en scène. Et maintenant, bah, en fait, je suis sur scène. Donc il y a d'autres gens qui montent mes textes et c'est super parce qu'il y a des musiciens, là il y a un opéra qui a été écrit co-écrit par Étienne justement qui a joué. Il y a des comédiens, des metteurs en scène qui jouent mes textes et c'est super, allez-y, j'adore.
Et vous pouvez aussi prolonger donc la découverte de l'univers de Claire Rangade toutattaché.wordpress, ça c'est son site internet et puis également ses ouvrages qui ont la chance d'avoir été publié aux éditions 34, enfin c'est surtout les éditions 34.
Les éditions Espace 34 et les éditions Color Gang principalement et puis aussi les éditions théâtrales. Voilà.
Merci beaucoup. Étienne Roche, tu restes avec nous car nous avons besoin de toi car voici Léo.
Merci,
Léo.
Merci.
Kokoriyo kolo zumama, koko namere zumama, aningani leke zumama, rekere rekere
zumama.
Kokoriyo koro
zumama,
koko namere me
zumama,
aningani lekele
zumama,
rekere rekere
zumama.
Cric,
crac,
cric,
crac.
Est-ce que la cour dort?
La cour ne dort pas.
Est-ce que la cour dort?
La cour ne dort pas.
Ah, ça se voit. Alors, si la cour ne dort pas, ouvrez grand les oreilles et écoutez. Il y avait des hommes qui dormaient beaucoup. Il y avait des hommes qui dormaient vraiment beaucoup. Un jour, on les chasse hors du village. Et ils se rencontrent entre eux, finalement. Et ils se demandent l'un et l'autre, mais pourquoi les gens nous chassent aussi comme ça? Et ils se disent l'un et l'autre que réellement, c'est parce qu'ils dorment beaucoup. Mais pendant qu'ils discutent entre eux, ils se couchent et ils dorment. Le premier, quand il dort, ouvrez grand les oreilles, c'est qu'il dort à côté d'une termitière. Il n'est même pas effrayé et continue son sommeil malgré les piqûres des insectes. Il n'est pas vraiment inquiet. Il y avait une vieille dame qui circuler dans les parages. Finalement, cette dame était à la recherche des termites pour nourrir ses poussins. Il arrive sur la termitière et vous savez, de coutume, pour avoir les termites, il faut vraiment frapper le nid des termites. Et c'est ce qui va se faire. Et pendant que cette dame creuse la termitière, le dormeur reçoit des coups sur son dos et il se réveille et il crie: qui m'a réveillé de mon sommeil? Le second, il dort au milieu d'un nid d'abeilles. Il n'est même pas inquiet. Incroyable. Il continue à dormir malgré les piqûres d'abeilles. Oh! Et il arrive que il y avait des gens qui cherchaient le miel dans les parages. Ils arrivent, ils trouvent le miel en train de couler quelque part. Et vous savez, de coutume, pour avoir le miel, il faut un peu de feu. Et c'est ce qu'ils mettent. Ils brûlent une partie de la ruche. Et pendant qu'ils brûlent une partie de la ruche, le dormeur reçoit aussi de la fumée et il reçoit du feu. Il se réveille. Et qu'est-ce qu'il dit? Qui m'a réveillé de mon sommeil? Et le troisième, il dormait paisiblement sur l'herbe. Et soudain, il a commencé à pleuvoir. Vraiment à pleuvoir à torrents. Et malgré les gouttes de pluie et la pluie, il continue toujours à dormir. Et finalement, le torrent l'a emmené vers le marigot. Et dès qu'il arrive dans le marigot, il y avait aussi un caïman. Et le caïman était là. Et le caïman l'avala. Mes chers amis, et pendant qu'il était dans le ventre du caïman, il est toujours resté en train de dormir. Et comme par hasard, il y avait aussi des gens dans les parages qui passaient, qui cherchaient du poisson. C'était des pêcheurs. Ils arrivent dans le marigot, ils pêchent. Et ils trouvent aussi un caïman. Ils disent, quelle aubaine, ils tuent le caïman. Et en ouvrant le ventre du caïman, vous savez, pour ouvrir le ventre du caïman, il faut un bon couteau. Et ils commencèrent à poignarder le caïman et les coups de couteau rentrèrent dans le corps de ce dormeur et qui sursauta, qui sortit du ventre et dit « Qui m'a réveillé ?» Mes chers amis, je veux vous dire que à partir de cette semaine, nous allons commencer une série de contes par devinette. Donc celui-ci, c'est le premier. Et je laisse la possibilité à nos auditeurs de nous reprendre. Parmi les trois, quel est le plus grand dormeur? Kokori yokoro, sumama, kokona mereme, sumama, haningani lekele, sumama, rekere rekere, sumama. Et notre conte s'arrête par ici. N'oubliez pas que c'est Léo Ratabantou qui était avec vous. Et j'étais accompagné à la contrebasse par Étienne Roche, les doigts d'or. Et ça se voit. Ceux qui veulent nous suivre, vous êtes sur les réseaux sociaux. Le site c'est Ratabantou, Facebook Ratabantou. Et en ce net moment, nous sommes à Place Mazagran, Festival Empreinte des Arts, où j'ai installé la yourte à Palabre. Le 27 et le 28, nous sommes à Grézieux-la-Varenne avec l'association CMB. Et vous êtes aussi la bienvenue. Fola 2017, Grézieux-la-Varenne. Et vous êtes la bienvenue.
Merci Léo. Merci Léo. Et la yourte, Place Mazagran.
Oui.
C'est quelle date?
C'est cet après-midi.
C'est ça, c'est cet après-midi.
Le festival a commencé depuis hier.
Oula, et t'es en retard.
Oui, je suis venu faire l'émission et je repars tout de suite.
Donc on peut aller t'écouter. juste le mail ratabantous, R-A-T-A.
R-A-T-A-B-A-N-T-O-U-S.
C'était Léo. Merci beaucoup. Tiens, Léna, toi ici, mais figure-toi qu'on a 2 minutes 30 pour parler petite culotte.
Alors non, on ne va pas parler petite culotte aujourd'hui. On l'a fait la semaine dernière déjà. Oh, et malheureusement, tu n'étais pas là. Je suis sûre que tu es déçue. Non, aujourd'hui, je voulais parler du jean et de l'histoire du jean parce que j'ai l'impression que tout le monde dans ce studio porte pratiquement un jean. Bon, pas toi, Anne. Mais et en fait, l'histoire du jean est très intéressante et digne d'être racontée. En fait, le jean, à la base, c'est plutôt un tissu et avant d'être un pantalon. En fait, c'est un tissu qui est originaire de Gênes, de la ville de Gênes. C'était un mélange de toile, de laine et de lin, et on l'utilisait pour construire les voiles de bateaux et les pantalons des marins. Et en fait, c'est le nom toile de Gênes qui est devenu toile de jean avec l'accent américain quand le tissu a été exporté aux États-Unis. Et en fait, à ce moment-là, ce tissu a été utilisé pour construire des pantalons pour les ouvriers et les fermiers parce qu'il était résistant. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que le carré de cuir est apparu derrière, au-dessus des fesses, parce que ces ouvriers l'utilisaient pour craquer leurs allumettes et allumer leurs cigarettes. Et depuis, il y a encore un carré de cuir derrière et les marques l'utilisent pour écrire leur logo et tout. Et à la base, c'était pour allumer des clopes. Et voilà. Et ensuite...
T'as du feu, s'il te plaît?
Ouais, c'est ça. Ça peut être une technique de drague aussi, mais et donc ensuite après dans les années 30 le jean est sorti des classes populaires et des ouvriers et est devenu à la mode, surtout d'abord aux États-Unis, et il a été importé ensuite en Europe à la fin de la Deuxième Guerre mondiale quand il y a eu plein de surplus américains qui sont apparus en Europe et tout. Et et c'est à ce moment-là aussi que les réalisateurs et tout ce qui est pub a placé ces produits dans les films hollywoodiens et que les gens se sont mis à en porter. Et après, dans les années 50, c'est devenu un symbole de la jeunesse moderne et du rock'n'roll, et c'est à ce moment-là que tous les acteurs comme James Dean, Marlon Brando et tous sont mis à les porter à l'écran. Et il était même interdit dans les écoles américaines. C'était Pourquoi hyper subversif de porter un jean et tout. Et après, ben aujourd'hui évidemment, on est énormément emporté. Ça a été approprié par la communauté hippie et tout. Et aujourd'hui, ben on en porte tous et ils s'adaptent.
Sauf toi.
Sauf moi, j'ai un seul jean. J'en ai un.
Oui, c'est vrai. Tu le mets pas souvent, mais t'as raison, ça ne te va pas.
Et... Ok. Merci beaucoup.
Non, mais alors que t'es toujours, les auditeurs ne savent pas, mais très élégante, une tenue vestimentaire très recherchée. Et
après, on peut être très élégant en jean aussi. Hein,
c'est vrai, c'est vrai.
Mais c'est vrai que j'en ai qu'un seul.
Bah, qu'est-ce qui fait un beau jean alors, justement?
Bah, moi j'aime bien le jean taille haute, je trouve que ça flatte beaucoup plus la silhouette que les jeans taille basse. Et donc j'aime bien les jeans taille haute et pas, j'aime pas trop les jeans troués, même si ça peut être joli. Mais moi, j'aime bien jeans taille haute, qu'on peut retrousser aux chevilles et pas trop clair.
Ça, voilà. C'est la mode, en fait.
Ça, c'est ce que je préfère, moi. Après, oui, c'est plus la mode des jeans taille haute, ouais.
C'est sur cette grande philosophie que je te remercie, Léna. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci à toutes et à tous. Je vais citer personne, car je vais oublier tout le monde. Blablamix, ça malaxe. Blablamix, c'est relax. Et vous voilà en bonne compagnie, puisque c'est Stand Firm du reggae. Et c'est tout de suite.